De l'autre côté de la musique, une émission proposée, présentée par les soins de Michel Giardella, émission mensuelle que nous retrouvons aussi sur radioroyant.fr. Découvrir eh bien, tout ce panel de thématiques de compositrices, compositeurs qui ont donné un fil conducteur à cette émission. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, il s'agit vraisemblablement d'un poème épique, Orlando Furioso, pour sa consonance italienne.
Voilà, oui. Il faut dire que l'opéra a toujours été marqué par les gens un tout petit peu déséquilibrés. Le premier opéra que nous connaissons, c'est l'opéra de Monteverdi, Orphée et Eurydice. Orphée est tellement passionné, bien sûr, que lorsqu'il revient des enfers avec son Eurydice, il ne peut s'empêcher de se retourner pour la voir, malgré l'interdit des dieux. Il était fou amoureux, hein, c'est le cas de le dire, fou amoureux. Et il sera donc condamné, avec une certaine folie, à chanter tout son malheur. Voilà donc déjà le premier opéra, hein, c'était pas très très équilibré les personnages. Ensuite, nous avons quand même le grand livre, le Roland Furieux de l'Arioste. C'est un livre qui a fait sensation à l'époque. Et il a servi, ce Orlando, il a servi de modèle à tous les compositeurs qui se sont détachés de toujours représenter des histoires chez les Grecs, chez les Romains. Donc il y a eu un regard nouveau. Alors l'Arioste a écrit son bouquin, c'était en 1516. Il a écrit ce bouquin d'une façon un peu curieuse, hein, parce que le Roland, c'est le Roland, le neveu de Roland, le fameux Roland de Roncevaux. Mais c'est l'histoire de l'Arioste n'est pas très claire, parce que ce Roland, il lui fait faire des choses qui ne sont pas très très héroïques. Et on va suivre son histoire avec les regards des différents compositeurs qui chacun interpréteront très librement les textes du Roland Furieux. Alors le Roland Furieux, bien sûr, il se compose de toute une série de chants, on appelle ça des chants. Il y en a à peu près 20, il y a deux tomes, il y en a à peu près 24.
46,
voilà, très bien, tu es bon en maths. Et voilà. Et il en a rajouté quelques-uns parce qu'il ne s'arrêta jamais de travailler sur cet ouvrage. Voilà, donc on l'appelle le divin Arioste, parce que toute l'intelligentsia du début de la Renaissance lisait le Roland Furieux, qui est quand même une reprise d'aventure de seigneur du Moyen-Âge, parfois aux prises avec les Sarrasins, parfois aux prises entre eux avec le mal. Enfin, c'est un modèle qui a profondément marqué la littérature mondiale, puisqu'à l'époque, l'Europe, c'était le monde.
Oui.
Voilà. Alors, je vous propose pour commencer, la première version que j'ai trouvée, c'est celle de Lully. Lully, ah bien sûr, lui, il a appelé ça Roland. Hein, pas Orlando
Furioso.
Furioso. Alors, Roland, hein, ce neveu de Charlemagne, et s'était épris d'Angélique. Mais Angélique, elle le manipula un peu, elle le manœuvra, et Angélique, elle aimait Médor. Pas le chien, hein, elle aimait Médor. Et Médor, on ne sait pas trop qui c'est dans l'histoire. Mais enfin, en tout cas, on sait qu'il était beau, mais ce n'était pas un vaillant guerrier. Il était beau, c'était déjà pas vilain. Hein. Et elle fut séduite par ce Médor, et Roland apprécia pas du tout, parce que lui, il était amoureux d'Angélique. Voilà, tout le drame, c'est ça. Et alors, on va lire quelques tout petits textes du Roland Furieux, parce que moi, j'ai trouvé ça un peu amusant, parce que c'est quand même un regard très lointain de nos histoires à nous. Hein. Alors, Roland, bien sûr, dans un premier temps, il va dans une grotte, et dans la grotte, qu'est-ce qu'il voit écrit sur les murs de la grotte? Grosso modo, Angélique aime Médor.
Oui.
Alors ça lui plaît pas beaucoup.
J'imagine.
Il est furieux, et c'est ça qui l'a rendu furieux. Hein. Alors que dit le Tasse? Il voit les noms d'Angélique et de Médor entrelacés, de 100 nœuds et en plus de 100 endroits. Chaque lettre dont ces noms sont formés est comme un clou avec lequel amour lui perce et lui déchire le cœur. Il va roulant 1000 pensées à son esprit et cherchant à se persuader qu'il se trompe, que c'est une autre Angélique qui a gravé son nom sur l'écorce de ses arbres. Voilà. Alors, il y a une variante, il y a des endroits, c'est dans la grotte, à d'autres endroits, ils se prononcent et ils ont gravé le nom entrelacé de Angélique et Médor sur des lauriers. Bon, enfin voilà, c'est. Mmh. Et on retrouvera, ça sera utilisé par les quatre compositeurs suivants pour déclencher la fureur de Roland. Alors, qu'est-ce qui lui arrive, ce pauvre Roland qui a découvert ça? Il lui arrive cette histoire qu'il commence à se déchaîner, bien sûr. C'est un guerrier et il jette pêle-mêle dans ses belles eaux les branches, les troncs, les racines, les fragments de rochers, les mottes de terre afin de troubler si profondément qu'elles ne puissent jamais reprendre leur limpidité première. Enfin, harassé de fatigue, couvert de sueur, et le souffle venant à manquer à sa haine, à sa fureur, à sa colère ardente, il tombe sur la prairie et pousse des soupirs vers le ciel. Il reste, le casque et l'écu à la main, au loin le harnais et plus loin le haubert. En somme, je dois dire que toutes ses armes furent dispersées çà et là dans le bois. Puis il déchire ses vêtements et montre à nu son ventre velu, toute sa poitrine et son dos. Et alors commence la grande folie, si horrible que jamais personne n'en verra de semblable. Sa rage, sa fureur arrive à un tel paroxysme qu'il ne conserve plus la notion d'aucun sens. Il ne se souvient plus comment on tient en main l'épée avec laquelle il aurait, je pense, pu faire encore d'admirables choses. Mais son incomparable vigueur n'a besoin ni d'épée ni de hache. Il en donne de merveilleuses preuves en déracinant d'une seule secousse un grand pin. Il en arrache deux autres, comme s'ils eussent été du fenouil, des hêbles ou des aneths. Il en fait autant pour les hêtres, les ormes, les chênes verts et les sapins, aussi facilement que l'oiseleur peut faire place nette à ses filets. Il arrache les joncs, la paille et les orties. Roland déracine les chênes et les vieux arbres séculaires. Les pasteurs qui entendent un tel fracas, laissant leurs troupeaux épars dans la forêt, accourent de tous côtés en grande hâte pour voir ce que c'est. Mais me voici arrêté à un point que je ne dois pas dépasser sous peine de vous fatiguer avec mon histoire. J'aime mieux la suspendre un instant que de vous ennuyer par sa longueur. Mmh. Voilà, alors on va voir ce qui se passe. Alors on change de chant. On était au chant 23. On passe au chant 24. Alors au chant 24... On pourrait bien me dire, frère, tu vas en remontrant aux autres que tu ne vois pas ta propre faiblesse. À cela répond que je vous comprends fort bien, maintenant que mon esprit est dans un moment lucide. J'ai grand souci, et je l'espère le faire un jour, de me reposer enfin. Mais dès que je veux mettre cette résolution à exécution, je le puis, car le mal a pénétré jusqu'au fond de mes os. Seigneur, je vous disais dans l'autre champ que les furieux et forcenés Roland, après avoir arraché ses armes et déchiré ses vêtements, les avaient dispersés dans la campagne. Il avait jeté son épée sur le chemin, cavernes et les forêts profondes. Lorsque, attirés par les rumeurs, de nombreux pasteurs accoururent, conduits en ces lieux par leurs mauvaises étoiles ou en punition de quelques péchés. Dès qu'ils se sont approchés d'assez près pour voir les incroyables prouesses d'un tel fou et sa force terrible, ils font volte-face pour fuir. Mais ils ne savent plus par où, comme il advient dans une peur soudaine. Le fou se précipite sur leurs pas. Il en saisit un et lui arrache la tête avec la même facilité qu'on cueille une pomme sur l'arbre ou une fleur épanouie sur le buisson. Il prend par une jambe le tronc pesant et s'en sert comme d'une massue contre les autres. Il en jette deux par terre et les endort d'un sommeil dont ils ne se réveilleront probablement qu'au jour du jugement dernier. Leurs compagnons s'empressent de fuir le pays et bien leur sert d'avoir le pied leste. Le fou les aurait en néanmoins bientôt rejoints s'ils ne s'étaient pas jetés sur leur troupeau. Voilà. Alors, vous avez l'atmosphère du livre qui est quand même quelque chose de particulier.
Oui, assez pesant.
C'est un peu violent. Voilà, donc, Alors, je vous propose du Roland de Lully, un passage où donc Roland a ses premiers signes de folie, parce que c'était dur à représenter le déchaînement de Roland. On n'était pas encore dans les époques où romantisme ou les excès pouvaient se déchaîner comme on voulait. Voilà, je vous propose un extrait du Roland de Lully.
Je suis trahi, ciel, il aurait pu croire au ciel. Je suis trahi par l'ingrate bonté, pour qui l'amour m'a fait trahir ma gloire. Où tous espoirs, où j'étais enchanté, dans quel avis ma fleur m'a tout précipité. Et moi, une odieuse flamme, tout ça avait trop blessé mes yeux. Que tout ressente dans ces lieux l'horreur qui règne dans mon âme. Que tout ressente dans ces lieux l'horreur qui règne dans mon âme.
Bien voilà, ouais. Une composition de Lully, enfin pour l'illustration musicale de l'interprétation de ce Roland furieux.
Voilà, alors il faut dire que ce livret, le livret, c'est Kino qui était le qui écrivait le texte, mmh, hein, sur la base de l'histoire de l'Arioste. Et c'est un peu sinistre parce que c'est un moment qui a été composé en 1685. Alors vous savez tous qu'en 1685, c'est le moment de la révocation de l'édit de Nantes, hein, c'est le moment des dragonnades, c'est un moment sinistre en France, hein, puisque les protestants sont violemment pourchassés. Et donc ce thème de Roland défendant la foi catholique, parce qu'on se souvenait aussi de l'histoire de Roland Roncevaux, etc. Bon, ça c'est un moment un peu angoissant de la France, parce que tout le monde n'était pas bien d'accord pour cette révocation de l'édit de Nantes. Mais enfin bon, c'est l'opéra qui a été donné donc en 1685, à ce moment-là, par Lully.
D'autres se sont emparés aussi.
Voilà, bien sûr. Alors bien sûr, c'était l'Arioste, c'est un Italien qui l'a écrit. Hein. C'est l'Arioste était italien et bien sûr le compositeur de l'époque, l'opéra, ça se passait où essentiellement à cette époque-là, à Venise. Ouais. À Venise, Vivaldi a écrit deux opéras sur Roland. Le premier, le Roland furieux, est bien passé. Puis il en écrivit un deuxième, Roland faisant semblant d'être fou. Mais celui-là n'a pas marché. Le premier a bien marché et ce fut un grand succès. Il a été joué très très longtemps et il a été donné donc au théâtre Sant'Angelo en 1713. Et cet opéra, je vous en propose bien sûr un petit bout. Hein. C'est toujours pareil, nous arrivons au moment où Roland découvre ces textes gravés soit dans le rocher, soit dans les branches. Et donc, ça lui déclenche sa folie. Voilà, je vous propose un extrait du Roland furieux d'Antonio Vivaldi.
Ciao!
Roland Furieux, Orlando Furioso, puisque nous sommes en Italie avec la participation pour ce poème de Vivaldi.
Voilà, Vivaldi. Alors, ce que je tiens à vous préciser, quand même, c'est très important. Vous avez entendu une femme qui chante.
Oui, voilà, c'est
ça. En réalité, elle tenait le rôle de Roland. Ouais. Pourquoi c'est arrivé? Ce sont les femmes qui tiennent le rôle de Roland. Ben, c'est très facile à comprendre. Ces rôles étaient tenus par les castrats. Et donc les castrats étaient des hommes qui avaient un registre vocal que nous n'avons plus actuellement. Et comme ils doivent dans la musique monter la gamme très très haut, seules les femmes sont capables de suivre à peu près cette partition. Alors parfois, on hésite, on met des hautes contre. C'est des hommes qui ont une voix de tête, hein. Mais le problème, c'est la puissance. Ils n'ont pas la puissance d'une femme qui tient la voix très très haute et très très forte. Voilà. Alors vous étonnez pas, Roland n'a pas changé de sexe. Hein. C'est simplement une tradition qui fait que cela a évolué au cours du temps. Hein. Maintenant, les hommes n'ont plus envie de se faire castrer, donc
Les femmes prennent le relais,
place, avantageusement peut-être. Ouais. Voilà.
En tout cas, elles avaient moins le droit de citer avant, ce qui fait que d'où les castrats. Et qui serait faire une émission d'ailleurs spéciale autour des castrats que
nous avions fait avec c'était le docteur Tergeman. Oui, oui. Voilà. Donc un autre Rolando aussi, dont le rôle de Roland sera tenu par un castrat. Donc ça va être une femme qui va chanter le rôle de Roland. C'est celui de Handel. Alors, je vous ai choisi un moment où c'est quand même un opéra typiquement baroque, avec un petit peu toute l'atmosphère baroque de mise en scène, des spectacles. Parce que les gens, quand ils allaient au baroque, ils voulaient de la mise en scène. Ils voulaient pas un chanteur planté au milieu de la scène et qui chante. Non, il fallait que les anges arrivent, qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait du tonnerre, qu'il y ait des monstres. Et c'était presque le metteur en scène était certainement aussi important que le musicien. Voilà. Alors, je vous propose un extrait aussi du Orlando de Handel, qui est pratiquement de ses meilleurs opéras. Voilà. Alors, je crois qu'il a été donné à Londres, bien sûr, puisque Handel vivait à Londres. Et c'est quelque chose qui est certainement l'un des meilleurs opéras de Handel de cette fin du XVIIIe siècle. Voilà. Un extrait du Roland Furieux de Handel, Orlando.
Seguita da un cavalier, fuggendo va nel bosco, volo a cor sull'orme. Amor, caro amore, assistimi tu, tuo nome imploro, imploro, mi doro, chiami in van.
Dove m'ascolto?
Non fuggi dai, se non fai nell'altro mondo.
Ombra, e con l'ombra
voilà, voilà, pour terminer l'orage, hein, mise en scène.
Coup de tonnerre. Hein.
Coup de tonnerre. Important dans la mise en scène, un spectacle.
La mise en scène, spectacle. Oui, oui, oui. Musique baroque, on aimait le spectacle. Voilà.
Voilà, c'était voilà, le Roland Furieux de Handel.
De Handel, Orlando. Et maintenant, je vous propose un autre Roland Furieux. C'est le Orlando, alors il l'appelait Paladino, Orlando le paladin, Roland le paladin. Un paladin, c'est un seigneur qui a l'honneur de manger à la table de son suzerain, de son roi, etc. Donc voilà, alors ce Orlando Paladino, c'est un opéra de Handel qui a été donné en 82 sur un livret de Porta. Et c'est une œuvre très très importante parce que ça a été l'opéra le plus joué de Haydn. Mmh. Mais déjà, on évolue vers... on quitte le baroque, hein, et on va vers, vers le romantisme discrètement, en tout cas vers le classicisme. Mmh. Donc Haydn est l'un des meilleurs représentants. Voilà, donc je vous propose, faut quand même pas trop que nous parlions, écoutons de la musique, on est là pour ça. Je vous propose quelques extraits du Roland, de l'Orlando Paladino de Joseph Haydn.
Thank you. vanni, sembra il signor degli anni. All'incurvato remo io ravviso il nottier del guado estremo.
Thank you.
Voilà, de l'autre côté de la musique avec le Roland Furieux, vu à travers bon nombre de compositeurs, dont Haydn, que nous venons d'entendre, le Orlando Paladino, Michel.
Paladino, voilà. Alors, bien sûr, nous arrivons à une époque où les castrats passent de mode, bien sûr. Et dans certains pays, comme par exemple Louis XIV, avait toujours refusé les castrats. Ça lui plaisait pas. Et il y a la Chapelle Royale, et j'ai jamais eu de castrat. Mais bon, là, nous sommes en Autriche, dans le palais des Esterházy, hein, la grande famille autrichienne. Et là, déjà, le Roland est tenu par un homme, le Roland Furieux, voilà. Donc, nous avons fait une première approche de la folie. Ouais. C'est le cas de le dire, hein, le Roland Furieux. Et nous verrons que la folie, elle a flirté avec de nombreux opéras, surtout au XIXe siècle. Voilà.
Eh bien, à suivre alors.
À suivre.
Merci beaucoup, Michel.
Merci, au revoir et à bientôt.
À bientôt.